Vous écoutez France Culture.
Jean Lebrun et bonsoir à tous. Suite et fin d'une semaine entière sur le bac philo, une semaine dont exceptionnellement vous pouvez encore télécharger toutes les émissions sur le site internet de France Culture, à la page évidemment des nouveaux chemins de la connaissance. Le 16 juin, vous aurez 4 heures devant vous pour résoudre un problème, 4 heures, pas une seconde de plus, une grande page blanche et le sentiment désagréable d'avoir tout oublié. C'est trompeur évidemment, n'en soyez pas dupes, accueillez cette impression détestable comme une expérience de plus. Ce jour-là aussi, ceux d'entre vous qui ne sont ni des héros ni des matamores auront franchement la trouille et c'est normal. N'ayez pas peur de votre peur, sans quoi vous seriez malheureux deux fois. Après la liberté, l'art, la mort et la valeur d'une culture, c'est d'autrui que nous allons parler ce soir, en compagnie d'Aïda Ndiaye, qui enseigne la philosophie en terminale au lycée des Sept-Mars de Maurepas, dans les Yvelines. Bonsoir Aïda Ndiaye.
Bonsoir,
bienvenue sur France Culture. Au nom de quoi respecter autrui? C'est la question du jour, c'est l'ultime question de cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo. Alors, comment réagit-on face à un tel sujet?
Alors, je pense que d'abord, il faut faire attention à la forme du sujet, parce que c'est un sujet auquel on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et on va le voir justement, ça pose des problèmes particuliers de problématisation et d'élaboration du plan. Alors ça, c'est en général. En ce qui concerne ce sujet spécifiquement, je pense que la question peut paraître à la fois surprenante et évidente. Elle est surprenante parce que finalement, la question nous demande de justifier le respect. Au nom de quoi respecter autrui? C'est la réponse que pourrait faire un enfant à un parent qui lui dirait « tu dois respecter l'autrui, l'autre ».
Il dirait pourquoi.
Il dirait pourquoi ou au nom de quoi justement. Et je pense que le candidat aurait peut-être intérêt à distinguer au nom de quoi de pourquoi, puisque pourquoi ça demanderait la raison, la cause, alors que au nom de quoi c'est plus précisément la valeur qui justifie. Si je vous arrête au nom de la loi, je vous arrête au nom de la loi parce que j'en ai le droit, puisque je représente la loi. Donc cette loi au nom de laquelle j'agis, elle légitime en fait mon action.
Mais effectivement, vous avez raison de dire que « au nom de quoi » est un intitulé difficile, puisqu'il peut donner le sentiment qu'on va y répondre en énumérant finalement les différentes notions, enfin les différents principes en vertu desquels il s'agirait de respecter autrui. Or, ça n'est pas le but évidemment d'une dissertation.
Alors évidemment, mais ça, du coup, je voudrais y revenir tout à l'heure. L'idée là, c'est que... Je pense que ça demande de justifier le respect, ce qui n'est pas forcément évident pour les élèves. C'est-à-dire que pour les élèves, le respect peut apparaître finalement comme une sorte d'évidence, justement, et que l'idée qu'il faille le justifier, ça suppose déjà que le candidat, il ait assumé le fait qu'il ne va pas de soi. Et d'un point de vue méthodologique, il arrive parfois que les sujets aient en fait un présupposé et qu'il faut assumer, qui n'est pas nécessairement ce qu'on va traiter. Donc le sujet, ce n'est pas le respect va-t-il de soi, mais encore faut-il avoir compris pourquoi le respect ne va pas de soi pour pouvoir répondre, du coup, comment on le justifie. Donc ça, c'est la première chose, essayer de voir finalement ce qui fait problème. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut justifier le respect
et... Le problème étant ici que le respect n'est pas une évidence. Donc.
Voilà,
c'est ce que le sujet sous-entend.
Exactement. Donc déjà, on peut dire que c'est un devoir, une obligation qu'on s'impose ou qu'on nous impose. Alors après, vous avez raison, la difficulté de ce type de sujet, c'est en effet que ça invite à faire des plans, ce que j'appelle les plans catalogues, où le candidat fait une liste de réponses possibles, ce qui ne peut pas en fait satisfaire aux exigences de l'exercice, puisque... En général, du coup, la conclusion du candidat, c'est un peu de faire une synthèse.
Un ramassis du catalogue,
oui, ça ne va pas. En fait. Or, il faut qu'on soit arrivé quelque part et qu'il ne soit pas au même endroit que l'endroit où on est parti.
Il faut partir d'une problématique et parvenir à une esquisse de réponse, en
voilà.
Tout cas, en conclusion. Alors donc, comment réagit-on donc? On est face à ce sujet, on a 4 heures, on a peur, on fait comment?
Alors, même si, en effet, il ne faut pas faire un plan catalogue, je pense qu'on peut commencer quand même par essayer de voir quelles sont les réponses qui viennent à l'esprit à cette question. Et en effet, il y en a plein. Si on pense, par exemple, à l'expression qu'utilisent justement souvent les jeunes, qui est « respect ». Quand est-ce que je dis à quelqu'un « respect » C'est quand il a fait quelque chose que j'admire. Bon. Mais déjà, on voit que c'est une raison qui est tout à fait subjective. Si je suis, par exemple, fan de foot, et que quelqu'un fait un geste technique particulièrement impressionnant sur le terrain, je lui dis « respect ». Mais évidemment, si je ne suis pas fan de foot, ça ne me concerne pas du tout. Donc il y a ces premières raisons tout à fait subjectives dont il faudra du coup interroger la valeur. Ensuite,
et puis je peux admirer un brigand, comme on dit. Je peux admirer quelqu'un qui est hors la loi. Et donc, à ce moment-là, mon respect viendrait de mon admiration, mais en aucun cas, il ne s'agit ici de morale.
Exactement, on y reviendra. Et du coup, après, il y a d'autres raisons La première, c'est peut-être la plus évidente, c'est que la loi m'y oblige. Hein. La loi, d'ailleurs, juridique ou morale ou religieuse. Bon. Et si elle m'y oblige, je la respecte, pas seulement parce qu'elle m'y oblige, mais aussi parce que j'y ai intérêt, j'y trouve mon compte. D'une part, c'est ce qui me permet de gagner le respect de l'autre, il ne peut me respecter que si je respecte. Et dans cette espèce d'entente mutuelle, de respect mutuel, se dégage une société possible dans laquelle je peux vivre pacifiquement avec les autres et bénéficier de tout ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc on voit qu'il y a toutes ces raisons possibles et la problématique, elle va s'articuler autour de la question de savoir si toutes ces situations que l'on vient de décrire, est-ce qu'elles désignent véritablement un respect, en fait ? Et donc, on va essayer d'affiner la définition du respect en étudiant à chaque fois ces hypothèses qu'on vient de poser, en voyant si on parle véritablement de respect derrière.
Là, on est toujours dans l'introduction ?
Oui, là, je pense qu'on est même dans le travail préliminaire au brouillon de problématisation, où on essaie vraiment de cerner le sujet, parce que je pense qu'il est vraiment difficile à problématiser. Et donc, justement, pour la problématisation, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'on a tendance à considérer que le respect va de soi, mais que ce n'est pas évident. Et la question que doit se poser le candidat, c'est pourquoi est-ce qu'il ne va pas de soi ? Et là, on peut partir de la définition d'autrui. Qu'est-ce que c'est qu'autrui ? Qui est-ce ? C'est celui qui est comme moi, donc l'autre être humain, évidemment, le chien n'est pas autrui, mais qui est quand même différent de moi, qui n'est pas moi. Donc finalement, je ne partage pas nécessairement quelque chose avec lui. On n'a pas forcément les mêmes valeurs, on n'a pas forcément un intérêt commun, etc. Et au final, la question finalement, c'est pourquoi respecter cet inconnu auquel je ne dois rien. Donc on peut...
Je pressens à vous entendre, Aïda Ndiaye, qu'on s'oriente vers une problématique qui serait la question de savoir s'il faut respecter autrui parce qu'il est différent de moi ou s'il faut le respecter parce que c'est mon semblable.
On peut poser la problématique comme ça. Moi, j'aurais envie de dire...
Il faut rappeler une chose quand même, c'est qu'il y a plusieurs problématiques possibles hein, dans une dissertation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étape obligée, il n'y a pas un seul chemin pour le candidat qu'il s'agirait d'exhumer sous la broussaille des concepts. Donc... une problématique, un sujet peut accueillir différentes problématiques. L'une n'est pas exclusive de l'autre, mais allez-y.
Oui, parce qu'en fait, la vôtre, elle s'articule autour de la polysémie d'autrui, ou en tout cas de l'ambiguïté du terme qui désigne en effet le semblable et le différent.
C'est ce que j'aurais fait, oui.
Ensemble. Et du coup, moi, j'articulerais plus autour de la question du respect. C'est-à-dire, si je respecte autrui par intérêt, est-ce que c'est toujours du respect ? Et si je ne le respecte pas par intérêt, pourquoi le faire, si je n'ai pas intérêt à le faire ? Donc, moi, je verrais les choses comme ça, mais je pense que les deux se tiennent et peuvent générer d'ailleurs le même plan. Quoi.
Alors, allez-y.
Alors après, donc, pour trouver un plan, la difficulté qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est celle de réussir à trier les idées. Et surtout, je pense qu'il faut insister, pour éviter le plan catalogue, il faut que le candidat trouve trois hypothèses, ou deux, mais visons-en trois, qui sont bien marquées, qui ne sont pas juste... une liste d'exemples
et mais qui vont s'enchaînent en vérité. Voilà
c'est ça qui s'enchaîne. Qui vont substituer.
En somme, là encore, un petit conseil méthodologique, peut-être en dissertation. Plus important, je crois, que le thèse, antithèse, synthèse canonique, il faut peut-être marquer le fait que chaque partie doit conduire à une conclusion provisoire qui justifie le passage à une autre partie, c'est-à-dire un infléchissement du propos, finalement.
Exactement. Et d'ailleurs, je pense que la partie que négligent souvent les élèves dans le plan détaillé, c'est de rédiger leur transition, parce que c'est justement dans qu'on fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ressaisit l'hypothèse qu'on a étudiée dans la partie et qu'on en montre les limites pour montrer la nécessité de rebondir. Et en fait, s'il n'y a pas ce moment de transition, on ne comprend pas pourquoi le devoir continue, puisque si on a conclu quelque chose, autant s'arrêter là. Donc c'est vraiment très important. Alors là, ce que je conseille aux élèves, c'est de partir du plus évident, en fait. Alors pour moi, mais bon, on peut trouver d'autres plans possibles, évidemment. Le plus évident, c'est je respecte autrui parce que j'y ai intérêt. Donc je ferai une première partie en disant je respecte autrui au nom de mes intérêts, en mon nom, en fin de compte. Alors on pourrait commencer en expliquant que c'est d'abord ce que la loi m'oblige à faire, ce que nous disions tout à l'heure. Donc la loi organise cette coexistence extérieure des libertés dans une société qui est régulée, ordonnée. Bon.
Mais... en somme, si je ne le respecte pas, je suis puni. Il est donc dans mon intérêt de le respecter pour ne pas être puni.
Exactement. Bon. Donc c'est la menace de la sanction. Mais ce n'est pas le seul intérêt que j'ai à gagner, qui est un intérêt négatif en fait. C'est-à-dire j'évite la sanction, mais il y a un intérêt vraiment positif, qui est que j'y gagne, donc, comme on le disait tout à l'heure, le respect de l'autre et donc la sécurité, et que j'y gagne aussi... tout ce que la société a à me donner. Donc là, on peut faire une référence, par exemple, à l'insociable sociabilité de Kant, avec cette idée que grâce aux échanges et grâce à la coexistence avec les autres, et dans l'insociable sociabilité, Kant dit bien justement que les autres que je supporte de mauvais gré, donc c'est quelque chose que je m'inflige.
Il faut donner des références précises. Il me semble qu'on est dans les opuscules sur l'histoire là, de
c'est
Kant.
Ça, hein. Dans l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique.
Alors, c'est un titre à rallonge, l'idée pour une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, dans lequel Kant explique en substance que, en somme, les hommes sont liés les uns aux autres parce qu'ils les séparent, c'est-à-dire par le fait de désirer la même chose.
Voilà, exactement. Et finalement, ils tendent à s'isoler parce qu'ils se rendent bien compte que l'autre représente un obstacle à leur action. Mais en même temps, ils voient bien qu'ils ont intérêt à s'associer. Et donc, ils se réunissent bon gré mal gré, si je puis dire. Donc, ça permet de montrer qu'on a intérêt à respecter l'autre. Alors, la question qu'il faudra se poser dans cette première partie, c'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle ici du respect de l'autre ? Finalement, c'est un respect qui est assez extérieur. D'ailleurs, Kant parle aussi de la coexistence extérieure des libertés. C'est-à-dire que je ne rencontre pas l'autre. C'est presque une mise à distance. À la limite, dans ce sens-là, le respect s'emploie au même sens que je peux l'employer pour un objet ou pour une chose. Respecter une pelouse, respecter une église, c'est-à-dire préserver l'intégrité.
Respecter les toilettes en y entrant. Exactement. Parce que c'est dans notre intérêt, justement, et qu'on aimerait que quelqu'un d'autre fasse la même chose que nous.
Voilà. Et donc, c'est l'idée, ici, dans le respect d'une préservation de l'intégrité physique et morale de l'autre, et donc cette espèce de mise à distance qui est finalement la tolérance. Alors quel problème ça pose ? Comment justement on sort de cette partie pour passer à autre chose ?
C'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours dans le respect quand on y trouve de l'intérêt ?
Est-ce qu'on est toujours dans le respect quand on y trouve de l'intérêt ? Puisque, effectivement, ça signifie que si j'ai plus d'intérêt à gagner dans ce respect, à ce moment-là, j'ai plus à respecter l'autre. Donc on a effectivement un respect qui est versatile. L'autre problème que ça pose, qui est un peu le même d'ailleurs, mais ça nous permet ici de un peu affiner la notion d'autrui, c'est qu'on va se rendre compte aussi que le problème de la notion d'autrui, c'est qu'elle est générale. En gros, c'est tout le monde à l'exclusion de moi. Or, est-ce que je peux adopter une posture qui englobe ainsi tout le monde ? Et le problème de fond de cette partie-là, c'est que je peux tout à fait tolérer quelqu'un que je ne respecte pas, voire que je méprise. Si je vous dis je tolère votre présence ici, ça signifie bien que je m'en passerai bien.
Je souffre votre présence. Le verbe est magnifique ici, puisque souffrir la présence de quelqu'un, c'est à la fois le tolérer et en souffrir.
Exactement. Si je dis c'est votre décision, je la respecte, le propos implicite, c'est que je ne suis pas d'accord. Donc on voit bien que cette tolérance est finalement pas du respect dans le sens où elle ne me fait pas rencontrer l'autre, elle ne me fait pas aller vers l'autre. Et au fond, le problème, c'est que le respect doit se faire au nom de l'autre et pas en mon nom.
Ça veut dire qu'il faut toujours se méfier d'une certaine manière de celui qui commence ses phrases en disant « j'ai beaucoup de respect pour vous ».
Exactement.
Voilà.
Bon, alors allons-y. Il faut tolérer tout le monde. Etc.
Bien.
Donc, on voit ici qu'il faut trouver une autre réponse, que celle-ci ne fonctionne pas, parce que je ne peux pas respecter l'autre en mon nom, puisqu'en final, ici, le respect est une sorte d'incidence secondaire du fait que je préserve mes intérêts, mais je n'ai pas rencontré l'autre. Donc il faut qu'on trouve quelque chose qui justifie le respect chez l'autre et pas pour moi.
Et là, on passe dans la deuxième partie. À partir donc de ce que vous avez conclu de la première partie, que ce soit la question de la loi, la question de l'intérêt qu'on peut y trouver, vous êtes parvenu à une série de conclusions qui justifient donc qu'on passe à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, cette fois-ci, comment penser à un respect véritable peut-être ?
Alors,
Ou un respect qui ne serait pas corrélé à l'intérêt, je ne sais pas.
Oui, exactement. Donc là, je pense que la réponse, enfin, une fois qu'on a posé la question comme on vient de le faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment chez l'autre de respectable, on trouve une réponse assez simple dans tout simplement son humanité. Ce que je dois respecter chez l'autre, c'est son humanité. Et à ce moment-là, justement, on sort d'un respect qui est versatile et lié à mes intérêts pour avoir un respect universel et moral, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est dû à tout être humain en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on a affaire à des êtres humains qui ne sont ni des choses, ni des animaux, ni des végétaux, et qui du coup requièrent un traitement spécifique. Et ce traitement spécifique, c'est précisément le respect qui est à ce moment-là une posture morale qui est due à l'humanité que nous partageons, donc qui n'appartient à personne en fait. Alors là, je vois mal comment on peut faire dans ce devoir l'économie d'une référence à Kant, qui, bon, est dans, pour toute la philosophie morale.
Le penseur de l'universel, en somme. Et alors, juste une question. Mettons-nous dans le cas de figure, après tout, possible, probable, vraisemblable, de l'élève qui n'a pas lu Kant, n'a pas Kant en tête. Mais qui sait, évidemment, instinctivement, intuitivement, ce que la notion d'universel signifie. Est-ce qu'une copie, vous corrigez des copies, vous tombez sur une copie qui, au lieu de citer Kant, essaie de prendre à bras-le-corps la notion d'universel, de la travailler, de réfléchir dessus. Est-ce que vous regrettez l'absence de Kant ou est-ce que vous saluez chez cet élève l'effort qu'il fait de penser en dépit des références qui sont les siennes ?
Bah, c'est difficile parce que comme je ne le connais pas, je ne peux pas savoir s'il a oublié de citer Kant parce qu'il ne s'en souvient plus, ou si parce que, en effet,
Il a considéré que ce n'était pas nécessaire, oui, c'est ça.
Mais c'est sûr que ce qui prime dans la copie, c'est sa réflexion. Et donc, que la référence soit implicite ou explicite, ce qui importe, c'est qu'elle alimente la réflexion de l'élève. Donc, un élève qui ne cite pas Kant, mais qui traite de l'universel, ça n'a rien à voir avec un élève qui ne parle sans être informé, sans avoir une réflexion qui est riche. Donc
dans cette deuxième partie, on va reprendre cette conversation avec vous, Aïda Ndiaye, mais dans cette deuxième partie, on est donc dans une figure de l'universel qui s'exerce d'une certaine façon au détriment, au mépris des différences.
Exactement.
Il est blanc, je suis noir.
La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Différence ethnique, alliance de culture. Voilà les raisons de notre progression, c'est sûr. J'ai l'esprit clairvoyant et les yeux bien ouverts, car j'aspire, j'espère. Mais qu'avoir à faire taire dans l'instant tous les soi-disant prophètes, les propagateurs adulateurs d'une race parfaite. C'est clair et net, la démonstration est faite. 10% pour le pays, nos élections c'est une défaite.
En fait,
prends ça dans ta face, quelle que soit ta race. Blanc et noir, noir et jaune, jaune et rouge, rouge ou beurre. Je m'adresse à la jeunesse, celle qui se dresse sans cesse. Sans corps ni crâne face au dictateur dont l'empreinte reste une offense. Pour ce monde qui avance, je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir, histoire est à revoir.
Cool Chain et Joey Star, les NTM, fin des années 80, hein, l'album authentique. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce texte, c'est que Cool Chain se déclare clairvoyant. Il dit « j'ai les yeux bien ouverts » en expliquant que « je suis blanc, il est noir » mais que la différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Or pourtant, on pourrait dire que cette différence saute aux yeux, Aïda Ndiaye.
Oui, tout à fait. Mais
L'idée d'être clairvoyant en abolissant cette différence n'est-elle pas une illusion finalement ? Peut-être qu'on y viendra en troisième partie d'ailleurs.
Exactement, si vous permettez, c'est ça. On y reviendra en troisième partie.
On enjamberait la deuxième partie là. Alors allez-y dans la deuxième partie.
Donc on vient d'expliquer qu'il y a ce respect moral qui est universel, qui est dû à l'homme en tant que sujet. Donc la différence essentielle avec la tolérance dont on a parlé dans la première partie, c'est que ce respect ne s'applique pas à autre chose qu'à l'homme. On ne peut plus parler de respecter une pelouse ou respecter les toilettes comme vous le disiez. Ce respect est absolu et inconditionnel. Donc même si ce n'est pas mon intérêt, je dois continuer à respecter l'autre. Alors après, on peut presque faire tendre ce respect vers une sorte de crainte. Je pense qu'il y a une autre référence qui serait élégante sur ce sujet, c'est la référence à Lévinas, qui, d'une certaine manière, reprend cette idée du respect de l'humanité, mais à travers le visage, il exprime cette figure de l'autorité que représente l'autre, qui m'arrête, en fait, qui m'intime un ordre irrécusable, dit-il. Et donc, il y a cette idée du respect qui... de la personne que je respecte, qui me tient en respect, en fait. Je pense qu'on peut jouer sur ce sens.
C'est le même philosophe qui considère d'ailleurs que quand on regarde véritablement le visage de quelqu'un, on ne voit plus les traits de son visage.
Exactement, exactement. Et ce qui d'ailleurs nous permet justement de faire une habile transition vers la troisième partie, la question de l'individu, de la différence, etc.
Restons pour l'instant dans la seconde, hein, pour la détailler à l'attention de nos élèves.
Donc, chez Lévinas, on trouve cette idée qu'il y a le visage d'autrui qui m'intime l'ordre de le respecter. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on peut jouer sur cette idée de la crainte qui est à la fois la figure de l'autorité et qui rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la distance que le respect suppose. La personne que je respecte m'arrête, en fait. Et c'est le terme qu'emploie Lévinas, il dit « la figure d'autrui, le visage d'autrui arrête la disponibilité de la conscience ». Donc, Si on veut prendre un exemple, et je pense que ça pourrait être pas mal de filer un exemple sur l'ensemble du sujet, prenons le cas d'un criminel, par exemple.
Alors, petite parenthèse méthodologique, pardon Aïda Ndiaye, c'est important aussi. Les élèves ne doivent pas s'interdire de reprendre le même exemple sur plusieurs parties. C'est même assez intéressant.
Moi, je trouve que c'est assez intéressant, et même parfois de reprendre la même référence pour montrer comment...
Quand la creusant, on peut lui faire dire autre chose que ce qu'elle semble dire à première vue. Et ça, c'est la marque aussi d'un travail scrupuleux et d'une façon attentive de travailler les citations, par exemple.
Oui, je trouve que c'est assez intéressant, justement, de pouvoir faire ça. Alors... Là, moi, je prendrais un exemple qui n'est peut-être pas facile à manier pour les élèves, mais parce qu'il faut se méfier des exemples d'actualité avec lesquels ils ont souvent peu de distance et donc ils ont du mal à analyser. Mais posons-nous la question de savoir quelle attitude je dois avoir à l'égard d'un criminel comme Michel Fourniret. Si je me pose la question dans la première partie, dans la mesure où il a, lui, rompu le pacte social, j'ai aucun intérêt à le respecter, en fait, puisque lui ne m'apporte rien, il ne sert pas mes intérêts. Dans cette deuxième partie, on voit bien que, en tant que sujet, en tant qu'être humain, et qui n'est ni un objet ni un animal, je dois le considérer comme tel. C'est-à-dire qu'il est porteur d'une humanité que je partage. Et dans ce sens, le respect lui est dû de manière presque a priori, c'est-à-dire théorique en fait.
Ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui traitent Michel Fourniret de monstre ou d'inhumain oublient une chose, d'ogre, oublient une chose essentielle et très importante, c'est que Michel Fourniret, et c'est bien le problème, est un humain.
Exactement.
Et que l'humanité est donc capable.
Exactement. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à assumer ce qu'il a fait et que ça nous pose problème par rapport à l'image de l'humanité qu'on se fait qu'il est pour autant exclu de l'humanité. Donc tout à fait, c'est assez étrange de le traiter en effet de monstre ou d'ogre.
Mais c'est commode surtout.
Oui, exactement.
Alors.
Je prendrai un autre exemple. Quelqu'un de mon entourage souhaite, par exemple, se suicider, là c'est pareil. Au nom de la simple tolérance, je peux tout à fait juste le laisser faire. Évidemment, au nom de l'humanité que nous partageons, alors a fortiori si on est chez Kant où le suicide est tout à fait interdit, je peux pas le laisser faire. Donc on voit que ce respect moral est universel, ce qui nous permet quand même de dépasser les problèmes que posait le respect tolérance, puisque là, on a vraiment un respect qui est justifié dans l'autre, qui est fondé dans l'autre. Et en même temps, on commence aussi à voir le problème. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu chez Lévinas. Vous disiez à juste titre, le visage, en fait, gomme un peu les traits de la personne. Lévinas dit, quand je regarde le visage, je ne vois plus un personnage dans un contexte. Mais c'est justement là, bon, évidemment, ce qui fait la valeur de ce respect, c'est qu'il parvient à être universel et a priori, et c'est une nécessité en tant qu'être humain. Et en même temps, c'est ce qui en fait la limite, parce que du coup, finalement, je n'ai toujours pas rencontré l'autre. Et le respect, c'est un geste qui doit me permettre de rencontrer l'autre, justement, et qui doit se faire au nom de ce que l'autre est, comme on l'a déjà dit. Mais là, justement, on n'a toujours pas fondé le respect dans ce qu'est l'autre. Donc on pourrait passer ainsi à une troisième partie.
En somme, pardonnez-moi juste pour revenir sur un point, la question du respect, d'ailleurs comme la question de la tolérance dont vous faites ici des synonymes, et pourquoi pas, semble recouper deux définitions. Soit la tolérance ou le respect consiste à tout laisser, laisser faire, laisser passer. En somme, je tolère tout, comme on peut souffrir la présence de quelqu'un, je tolère même si ça me déplaît, je respecte même si je n'aime pas ça. Soit le respect consiste en une valeur. Et par conséquent, il se peut très bien qu'au nom du respect ou de la tolérance, on ne tolère pas ou on ne respecte plus certains comportements.
Exactement. C'est-à-dire que si moi, je respecte quelqu'un qui n'est pas respectable dans ses actions, qu'est-ce que ça dit de moi aussi ? Ça signifie que je renie mes propres valeurs, ça signifie que je n'ai plus de valeur, en fin de compte. Donc, on a quand même cette idée, qui je pense est nécessaire, en tout cas pour sortir de cette deuxième partie, que d'une part, comme je le disais à l'instant, le respect moral universel ne vise, n'atteint toujours pas l'autre comme individu incarné, en fait, concret. Et d'autre part, que si je m'en tiens à ce respect universel, est-ce que je finis pas par me renier moi-même ? Et pour continuer sur l'exemple de Michel Fourniret, je conçois en fait théoriquement qu'il est respectable en tant qu'être humain et qu'il doit être traité comme un être humain, pour autant, est-ce que je peux dire que je le respecte, comme je le dirais, par exemple, à mon meilleur ami ? Et ce que j'invite souvent les élèves à faire, et je pense que c'est important pour ce sujet, c'est de se poser la question pour eux. Parce que parfois, on a aussi l'impression qu'ils ont des postures théoriques parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut dire, mais qu'ils n'en assument pas toutes les conséquences. Or ici, admettons que le candidat s'arrête à cette deuxième partie, ce qui n'est pas en soi un problème, je veux dire, ce serait tout à fait honorable. Mais si on tire les conséquences jusqu'au bout de ce respect kantien moral, ça signifie que Michel Fourniret n'est pas moins respectable que le plus juste des hommes. Ça signifie que dans la mesure où le respect est universel, il est de droit a priori, finalement, indépendamment des actions, des existences, des individus.
On pourrait quand même tempérer hein, quand même l'idée qu'on se fait de Kant en général, en opposant à Kant lui-même d'ailleurs, et à son goût pour l'universel, les textes homophobes ou misogynes qu'il a pu écrire par ailleurs, qui sont quand même en contradiction directe avec ce que Kant nous permet de penser, c'est-à-dire cette universalité un peu abstraite, un peu désincarnée, c'est quand même étonnant. Ça c'est une parenthèse, mais c'est vrai qu'il faut noter quand même ceci, hein, c'est que les philosophes sont aussi géniaux par leurs failles. Ils sont géniaux d'être faillibles. Kant a écrit des choses épouvantables, que ce soit bon, sur la peine de mort, passe encore, mais sur les femmes ou sur les homosexuels, qui sont des choses absolument inimaginables. Mais bon, allez-y, Aïda Ndiaye, pardon.
Donc, dans cette troisième partie, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui justifie le respect chez l'autre comme individu. Alors, on voit le danger, c'est de tomber dans le relativisme qu'on dénonçait au début, puisque si je cherche un critère du respect chez l'autre, ça va varier chez chacun, etc. Et donc, finalement, bon, tout ça va se déliter et on n'aura plus vraiment de réponse possible. Donc ici, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que l'autre peut être respectable à mes yeux dans un mixte, je dirais, d'objectivité et de subjectivité. Je pense qu'il faut...
D'universalité et de proximité.
Exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas nier le caractère sentimental du respect. C'est un sentiment que j'éprouve, d'ailleurs on dit éprouver du respect pour quelqu'un. Et donc il y a quelque chose d'une connivence qui ne s'explique pas nécessairement et qui est subjective, donc sur laquelle on peut passer finalement assez rapidement. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est de s'en sortir en essayant de trouver un critère objectif qui me permet quand même de distinguer entre qui est respectable et qui ne l'est pas. Alors, je pense que ici la référence à Sartre peut être utile, puisque en fin de compte...
À quel Sartre pensez-vous ?
Je pense à l'existentialisme et à l'humanisme, qui est en plus un texte assez facile que les élèves souvent connaissent. Donc,
ils peuvent lire sans problème, sans difficulté. C'est la fameuse conférence hein, qui a valu à Sartre de devenir Jean-Paul Sartre. Hein. Au sortir de la guerre, il est devenu le philosophe mondialement connu à la suite de cette conférence, longue pour une conférence et courte pour un livre, et que tous les élèves de terminale peuvent lire sans difficulté.
Exactement. Donc, quel est en fait quel est le problème ? C'est que il faut que sortir de ce qu'on avait chez Kant, c'est-à-dire cette humanité a priori, qui est d'ailleurs le reproche que Sartre fait à Kant, l'idée d'une humanité qui serait quasi donnée et qui en fait serait là. Or, c'est pas le cas. L'humanité est en puissance et elle s'incarne différemment dans les existences des uns ou des autres. Et chacun doit assumer l'humanité qu'il propose aux autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a quand même des devoirs à l'égard d'autrui, alors même que nous sommes totalement libres. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que je peux respecter l'autre, ou je vais le respecter, à raison, à proportion de l'humanité qu'il incarne, dans laquelle on va retrouver à nouveau des éléments subjectifs. Donc évidemment, je serai plus sensible peut-être à quelqu'un qui est particulièrement performant dans le domaine de la science, si moi-même je suis scientifique. Bon. Mais on peut quand même se rejoindre.
Le fait est que c'est comme ça que ça se passe.
Exactement.
Aïda Ndiaye, le fait est que c'est comme ça que ça se passe. On a spontanément plus de respect pour quelqu'un qui, dans le registre où nous nous trouvons, travaille de façon admirable à nos yeux.
Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je pense qu'il est important que les élèves se posent la question. C'est-à-dire que je crois qu'une bonne copie devrait commencer par un travail au brouillon. Alors, il ne s'agit pas de raconter sa vie, mais l'élève devrait se demander... Quelles sont les personnes à qui je pourrais dire « je te respecte » et que ça ait véritablement un sens ? Ou alors, quelle est la différence entre dire « je te respecte » à un inconnu dans la rue et dire « je te respecte » à mon meilleur ami, par exemple ? Et là, on voit que le respect est en effet la rencontre de deux subjectivités et pas seulement un rapport entre moi et une idée universelle qui resterait très générale. Et donc, dans cette dernière partie, on dirait tout simplement que je respecte autrui au nom de l'humanité qu'il incarne, en tant qu'individu, c'est-à-dire particulier, singulier, et plus sujet général. Donc, Je pense que ce qui est important, et peut-être que ce n'est pas apparu assez clairement, c'est que chaque partie va redéfinir et le respect et autrui et les lier, en fait, dans une hypothèse qui, à chaque fois, est dépassée. Donc, si on résume un peu, dans la première partie, on a parlé du respect tolérance et d'autrui comme inconnu. On a vu que, du coup, on ne rencontrait pas autrui, ça ne fonctionne pas. Dans la seconde partie, on a parlé du respect moral et d'autrui comme un sujet, un être humain universel. On a vu que ça ne fonctionnait pas non plus parce qu'on ne rencontrait toujours pas l'autre. Et dans cette dernière partie, on parle d'un respect comme donc sentiment qui est quand même fondé non pas dans une pure subjectivité, mais dans une idée de l'humain et qui rencontre cette fois-ci véritablement l'autre comme individu.
Respect Aïda Ndiaye et merci. Je rappelle que vous êtes agrégé de philo, vous avez participé à la rédaction du hors-série de Philosophie Magazine dont on a été partenaire toute cette semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance et vous enseignez la philo en classe terminale au lycée des 7 mars de Maurepas dans les Yvelines. Au nom de quoi respecter autrui, c'était l'ultime question de cette semaine donc consacrée au bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance et dont toutes les émissions seront disponibles pendant un mois sur notre site et podcastables comme on dit exceptionnellement toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à ce soir. Par ailleurs, toutes les informations, bibliographie, conseils de lecture, biographie des intervenants, sont en ligne aussi sur le site. La semaine prochaine, c'est une semaine consacrée à Maurice Merleau-Ponty, qui aurait eu 100 ans cette année, dont on ne parle pas assez. François Doz, Vincent Payon, François Georges, Étienne Bimbenet et Françoise Dastur viendront successivement nous dire l'affection qu'ils portent à Maurice Merleau-Ponty. Une dernière chose également, à l'occasion du bicentenaire du baccalauréat, l'ami Emmanuel Laurentin consacrera la semaine du 16 au 20 juin à l'histoire du bac, dans la nouvelle fabrique de l'histoire, de 9h à 10h, du lundi au vendredi, donc la semaine du 16 au 20 juin. À la technique, c'était Aveline Carmois, à la réalisation, l'éminent François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve Avoinu sur France Culture.